Le jeudi 2 avril, à la veille du lancement de sa saison 2026, la Cité des Saveurs et Senteurs a eu le plaisir de convier le public à une conférence de presse au couvent des Cordeliers à Fort-Calquier. Nichée sur les pentes lumineuses de la montagne de Lure, la Cité des Saveurs et des Senteurs de Fort-Calquier respire comme un jardin vivant, ouvert entre ciel et terre. Là, les herbes murmurent leurs secrets anciens, les fleurs distillent leur mémoire et chaque parfum devient une histoire à écouter. En ce lieu singulier, l'Université européenne des saveurs et des senteurs et le musée Artemisia ne cohabitent pas simplement. Ils dialoguent, se répondent, le savoir y prend racine dans la terre, l'art y éclot comme une évidence et les sens deviennent des chemins de connaissance. Ici, les plantes ne sont plus seulement regardées, elles sont ressenties, goûtées, comprises. La cité ne se contente pas d'exister, elle invente de nouvelles manières d'habiter le monde. Elle ne se contente pas d'exposer, elle expérimente, elle ose, elle transforme. Elle ne se contente pas d'enseigner, elle transmet une vision. En réunissant science et poésie, en invitant l'art à converser avec le vivant, en faisant des jardiniers, des herboristes et des passeurs de savoir les voies d'un même élan, elle dépasse sa propre forme. Alors, la cité devient inévitable. Non pas comme un lieu que l'on visite, tout simplement, mais comme une expérience que l'on traverse. Un manifeste vivant où les saveurs éveillent la mémoire et où les senteurs dessinent l'avenir. Marianne Sarah, vous êtes chef de projet de la Cité des Saveurs et Senteurs. Patrice Delaurance, vous êtes le président de l'association. Aujourd'hui, ça a été le lancement de la saison estivale 2026.
Tout à fait, c'est une grande journée, célébrée avec de nombreuses personnes.
Ça a été une réussite, hein. Le public était au rendez-vous et on a pu voir vraiment, on a senti une nouvelle équipe passionnée, pleine de talent, avec des envies, des projets et envie de faire ensemble.
Oui, tout à fait. Nous voulions monter un projet qui parle à tout le monde et qui parte du principe que nous avons un environnement naturel exceptionnel autour de Fort-Calquier, des savoir-faire pour utiliser cet environnement naturel, que ces savoir-faire, ces ressources, il faut les promouvoir, les valoriser et aussi les transmettre.
Alors aujourd'hui, le public, qu'a pu-t-il découvrir lors de cette journée?
Je crois que le public qui est venu aujourd'hui a découvert une nouvelle énergie, pour commencer. A découvert un lieu qu'il ne venait peut-être moins visiter. Enfin, c'est les retours que j'ai eus ce soir et de nombreux retours. Un positivisme, une envie de revenir, une envie de travailler avec nous. Ce soir, on a eu beaucoup de projets potentiels qui ne seraient tardés.
Alain Baraton, jardinier en chef de Versailles, et le parrain cette année de la saison 2026. Pourquoi l'avez-vous choisi?
Nous l'avons choisi parce que c'est un personnage qui est par plusieurs côtés remarquable. Tout le monde connaît d'abord sa voix, la radio. Il est à la fois d'une compétence exceptionnelle et puis aussi il est capable de se mettre à la portée de tout le monde, ce qui est un peu le message que l'on veut faire passer avec nos formations et nos manifestations. On veut faire passer cette idée qu'on peut à la fois parler des choses d'une manière attractive, attrayante, et pour tous les publics, le grand public, comme les scientifiques, comme les institutionnels et comme aussi les professionnels.
Alors je rappelle à nos chers auditeurs qu'Alain Baraton est chroniqueur à France Inter le samedi matin. Il a une chronique sur les arbres, les plantes depuis plus de 20 ans. Alors quelles sont les missions de la Cité des Saveurs et Senteurs?
Les missions, c'est beaucoup dire, mais disons le projet. Le projet, c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est de mettre en avant toute l'attractivité de notre territoire, de le mettre en avant à la fois pour nos visiteurs et aussi pour les personnes qui habitent ce territoire à travers justement la richesse naturelle en matière de plantes et les savoir-faire qui sont liés à leur utilisation. Mettre en avant tout cela dans un contexte où les choses évoluent très rapidement, à la fois sur le plan climatique et aussi sur le plan des nouvelles technologies. comment faire pour maintenir ces savoir-faire exceptionnels, ces richesses naturelles exceptionnelles, tout en s'adaptant à la nouvelle donne du changement climatique et des nouvelles technologies.
Par exemple, après 20 ans d'expérimentation et de collaboration avec les acteurs locaux, la Cité des Saveurs et Senteurs abrite désormais sous un même toit l'Université européenne des Saveurs et des Senteurs et le musée d'Artemisia. Pourquoi cette fusion ? En fait, et quels vont être les bénéfices pour les deux structures ?
Alors, il s'avère qu'on parle de fusion, mais depuis toujours, c'est l'Université européenne des Senteurs et Saveurs qui gérait tout. Si ce n'est que c'était très mal compris par le public. Et Université européenne des Senteurs et Saveurs, qui est la personne qui se dit « je vais aller à l'Université européenne ». C'était un petit peu un frein dans le nom. C'est la structure qui porte toujours le projet, le musée Artemisia. Quand on parle de la cité c'est vivant. Une cité a plusieurs activités. Et en fait, c'est ce que nous sommes. Nous sommes un outil. Le lieu est un outil que nous allons utiliser au mieux afin de dire oui, il y a non seulement des compétences pour enseigner, traduire, apprendre, partager, mais aussi un lieu où on peut visiter et apprendre. On a aussi quand même un laboratoire où on va relancer les formations savonniers, une boutique, un espace récréatif, un extérieur, le cloître. On est au couvent des Cordeliers. C'est un endroit où il se passe beaucoup de choses, un outil magnifique.
Et vous souhaitez que ce soit ouvert justement à tous.
Oui, et c'est un endroit aussi qu'on visite. C'est un endroit où on a le plaisir des yeux quand on va visiter ce musée, qu'on va dans cette boutique qui est peut-être la plus jolie boutique de la région. On ne peut que passer un bon moment. Et on a essayé de faire en sorte que ce moment soit quelque chose, je dirais peut-être pas d'inoubliable, mais quelque chose de vraiment exceptionnel, en essayant de mêler à la fois culture et agriculture. Quand vous allez dans le musée, quand vous rentrerez dans la boutique, quand vous participerez aux ateliers qu'on organise, on vous parlera à la fois de un peu scientifique, un peu savoir-faire, un peu production agricole, mais aussi vous pourrez admirer des œuvres d'art. On a madame qui nous a fait une superbe composition de street art.
Donc vous avez des artistes pour lancer cette saison, dont Jésus Del Rio.
Alors Jésus Del Rio est un photographe espagnol qui vit ici à Sainte-Tulle dans le coin, qui a fait le tour du monde, qui photographie les paysages, qui a aussi tout un travail en noir et blanc où il photographie les humains, il a fait le tour du monde. C'est quelqu'un aussi qui est intéressant dans le sens où c'est un grand intello. Il vous dira toujours qu'il n'est ni photographe, ni intello, qu'il n'est personne, mais c'est un grand. C'est Jésus, quoi.
Donc l'art contemporain s'invite à la cité.
Oui, l'idée c'était aussi de faire un musée vivant. Il y a une base solide, incroyable dans ce musée. Maintenant, ce qui était important de se dire, c'est que chaque année, je peux y revenir, découvrir de nouvelles choses. Cette année, nous avons choisi 3 artistes. Donc Jésus, dont on vient de parler, Madame, dont on vient de parler, et puis Christy aussi. Christy, c'est une Américaine qui vit à Saint-Michel Observatoire. Finalement, nous avons eu l'immense chance de travailler avec 3 artistes dans 3 domaines différents qui habitent tous à moins de 25 km de chez nous et de faire découvrir le coin par le regard extérieur d'autres personnes et de plus des artistes.
Et n'oublions pas le magnifique piano qui est illuminé dans la pénombre. C'est un projet unique qui est utilisé par son inventeur qui est aussi un magnifique pianiste qui nous ravira de son répertoire toute la saison.
Vous parliez de l'artiste Christy Lund, artiste peintre, qui a peint des portraits de cueilleuses. Parlez-nous de ce partenariat, je pense, qui vous est cher.
Les cueilleuses, c'est l'histoire de la montagne de Lure, c'est l'histoire quand même aussi de ce qui a fait l'économie des Basses-Alpes, qui a participé, la petite économie. Et à ce jour, je voulais travailler avec elle pour le musée. Pour avoir vu son travail, au départ, à Saint-Michel Observatoire, elle a peint le portrait de 50 personnes de sa rue. J'ai été très éblouie par son travail, un vrai travail de peintre. C'est devenu immédiat qu'en fait c'était le portrait des cueilleuses, car les cueilleuses n'ont pas de statut à ce jour. Et l'idée c'était faire rentrer les cueilleuses au musée, c'était les reconnaître aussi.
Une reconnaissance.
Une reconnaissance.
Et c'est la reconnaissance de savoir-faire.
De savoir-faire et puis de leur statut, puis de leur vie, de leur activité, ça va beaucoup plus loin. Et de ce fait, ça a été immédiat. J'en ai parlé aux cueilleuses, elles se sont toutes retrouvées à la cité. Christy est venue, les a prises en photo, a parlé avec elles et a fait les portraits.
Elles sont combien sur le territoire ?
Une douzaine. Hein. Il faut voir que la pratique de la cueillette est une pratique qui a quasiment disparu en France, hein, alors qu'au départ, c'est l'ancêtre de l'agriculture. Ce qui est très particulier par rapport à notre territoire, c'est qu'avec la flore exceptionnelle de la montagne de Lure, les cueilleuses trouvent ici un terrain de jeu qui leur permet de pouvoir avoir une réelle activité professionnelle.
Comme vous le disiez, sur notre territoire, la flore est riche. L'herboristerie est une histoire ancienne, hein, bien entendu, mais elle a évolué.
L'herboristerie a été une victime collatérale de l'occupation, parce que pendant l'occupation, le régime de Vichy a décidé de organiser certaines activités sous forme d'ordre. L'ordre des médecins, l'ordre des pharmaciens, des experts comptables, etc. Ils ont oublié les herboristes. Ce qui fait que, après ces décisions, la profession d'herboriste n'a plus eu de reconnaissance. Et donc, pendant des années, les herboristes, comme les bouilleurs de cru, ont disparu petit à petit. Il a fallu que l'on rentre dans une dimension européenne, qu'on s'aperçoive qu'en fait, on pouvait très bien avoir une pratique de l'utilisation des herbes, entre guillemets, sans être forcément un pharmacien, pour que, à nouveau, puisse s'organiser en France une activité autour de l'herboristerie. Il y a encore 20 ans ou 25 ans, il n'y avait guère que 6 plantes en France que l'on pouvait vendre pour leur production médicinale. Et si vous aviez le malheur de dire une plante qui ne faisait pas partie de cette liste était bonne pour la santé, vous risquiez la prison. Comme ce n'était pas le cas dans les autres pays européens, en particulier en Belgique, progressivement, la réglementation française s'est assoupli et aujourd'hui on peut avoir une activité autour de l'herboristerie. Mais il reste encore un défi à relever sur la création d'une véritable chaire de l'herboristerie.
Alors conserver et transmettre ces savoir-faire locaux, c'est important pour vous?
C'est important, c'est quasiment vital pour le territoire. Il faut voir aussi que les plantes à parfum aromatiques et médicinales sur ce territoire sont à la base de peut-être toute l'économie de ce territoire. On avait fait une étude il y a peu de temps sur l'impact simplement de la lavande. Et on s'est aperçu que la lavande, certes, avait générer un chiffre d'affaires mais relativement modeste, mais que c'était à la base de toute une activité auto-industrielle. Et puis, on a découvert que la principale production de miel en Provence, c'était la production de miel de lavande. Que l'université de Marseille nous a fait une étude pour montrer que lorsqu'on questionne les gens sur un marché de Provence et qu'on leur dit dans ce questionnaire quelle est pour vous l'image de la Provence, la lavande arrive en numéro 2 après le soleil. Que les grandes firmes hôtelières, lorsqu'elles veulent communiquer, je me rappelle de Hyatt notamment, là, venez utiliser nos hôtels en France. On a 3 photos, on a la tour Eiffel, le château de Chenonceau, et non pas le beffroi de Saint-Tropez ou la baie des Anges, mais un champ de lavande. FR3 Marseille, le présentateur, et derrière un champ de lavande. Et donc au-delà même de l'activité économique liée directement à la lavande a une telle puissance symbolique qu'elle irradie tout le socle économique de la Haute-Provence.
Quels sont les ateliers proposés ?
Alors, il y a tous les ateliers autour des saveurs-senteurs, que ce soit l'atelier du parfumeur, enfin, qui est le plus reconnu. Et on a élargi cette fois, donc aussi, on parle des saveurs où on fait des ateliers cuisine avec les plantes d'ici. Et on a élargi aussi dans le domaine artistique, puisqu'on fait les encres végétales, les pigments. Donc, à ce jour, on a des ateliers qui s'adressent à tout public, des enfants, des adultes, tout au long de la saison, là.
En français et ou en anglais, c'est bien ça ?
Alors, la plupart des ateliers peuvent être en anglais aussi, sur simple commande.
Alors, vous êtes également sensible aux enjeux climatiques, comme la gestion de l'eau. Oui. Et prochainement, il y aura un colloque sur le partage de l'eau et d'irrigation collective en territoire méditerranéen.
Oui, tout à fait, parce que d'une part, on est l'une des régions la plus impactée par le changement climatique, mais aussi, on est la région qui a peut-être le plus d'historique sur la gestion de l'eau, hein, puisque depuis toujours, comme toute région méditerranéenne, et je ne veux pas rappeler maintenant des sources, on a été confronté au partage de l'eau. Du coup, on est une des régions, une des seules régions en France où l'irrigation collective est la principale source d'irrigation, ce qui permet d'avoir une gestion et une gestion durable et une gestion qui mériterait d'être exemplaire. Et c'est en ce sens que l'on veut pouvoir parler de la gestion de l'eau dans notre région.
Là, la saison est lancée, la programmation va venir, il y aura pas mal d'événements, donc j'invite les auditeurs de Fréquence Mistral à se rendre sur votre site.
Le site de Artemisia Museum pour y découvrir toutes nos futures activités. Suivre nos pages Facebook et Instagram, c'est là où on communique le plus. Et LinkedIn, bien sûr.
Que peut-on vous souhaiter pour cette année ?
Que cela continue comme ça a commencé aujourd'hui.
Puis surtout, nous avons une certaine expérience, mais on travaille avec des jeunes magnifiques. Marianne a découvert des jeunes forts calquierins qui, de tout leur talent, de tout leur enthousiasme, nous aident à mener notre beau projet. Donc, vive les jeunes!
Alain Baraton, vous êtes jardinier en chef du domaine national de Triano et du Grand Parc de Versailles. Et pour l'année 2026, vous officiez en tant que parrain. Pourquoi avez-vous accepté d'être le parrain et que cela implique-t-il en termes d'engagement ?
Je suis très heureux d'être à Fort-Calquier parce que c'est une cité dont je connaissais le nom et la réputation, mais que je ne connaissais pas de visu. Donc j'avais envie de la rencontrer. Je voulais également rencontrer des gens. Souvent, on me dit que l'on m'écoute à France Inter. Et il est vrai que si beaucoup de personnes ne connaissent pas mon visage, eh bien moi je ne connais pas non plus le visage de ceux qui m'écoutent. Et j'aime aller à la rencontre des gens. Et il est vrai qu'en arrivant à Fort-Calquier, je vais de surprise en surprise. Je rencontre des cueilleuses et des cueilleurs, des gens qui ont quantité d'histoires à raconter. Je rencontre un distillateur. Je rencontre des gens qui ont tous la même passion, la vie. Et il est une évidence, c'est que Versailles n'est pas le centre du monde. Alors, Louis XIV a fait construire un château merveilleux parce que lui-même, ne pouvant pas aller partout sur la planète, il avait fait en sorte que la planète vienne à lui. Je ne suis pas Louis XIV, donc moi, je me déplace et je vais à la rencontre des gens.
Pourquoi avez-vous choisi de devenir jardinier ?
Alors, à l'origine, c'était un accident. J'aurais aimé être photographe. C'était ma grande passion. Mais mes résultats scolaires, qui n'étaient pas extraordinaires, ont encouragé mes parents à m'inscrire d'autorité dans une école horticole. Cette école, j'en suis sorti en 1976. J'ai besoin d'un job d'été. Je suis recruté à Versailles, d'abord en qualité de caissier, puis jardinier stagiaire. Et je découvre à cette occasion un parc extraordinaire, une grandeur incroyable, 850 hectares, une histoire vieille de 400 ans. Et je tombe amoureux de Versailles, mais surtout de ses arbres et de sa beauté. Et j'ai, en quelque sorte, non pas décidé de rester, mais la vie a fait que je suis resté à Versailles. Imaginez un instant que je fête cette année mes 50 ans à Versailles. Je pense mériter moi aussi le titre de monument historique.
Vous avez publié Le jardinier de Versailles, justement. Vous y racontez votre parcours. Vous parlez aussi de l'histoire de ce parc qui est prestigieux. Vous en connaissez chaque recoin en 50 ans depuis ?
Objectivement, oui. J'ai la chance de très bien connaître le parc, même si ce parc est vivant. Et même si les saisons, le temps qui passe fait qu'il change parfois d'apparence. Mais il est vrai que je le connais mieux que personne. Je vais le quitter sans aucun regret, parce qu'il est temps maintenant de transmettre aux jeunes générations les clés de ce domaine hors du commun. Mais il est vrai qu'avoir travaillé alors que rien ne m'y prédestinait, être resté 50 ans dans ce lieu, ça m'étonne beaucoup. Je suis resté encore le gamin dans la tête, à savoir celui qui est rentré à Versailles en vélo Solex, celui de sa maman, à la recherche d'un job d'été. Et j'étais loin de me douter, vraiment, qu'un jour, je serai à Versailles, au poste que j'occupe.
Bien souvent, lorsque l'inconnu qui se présente ou l'inattendu, c'est là où la vie commence, non ?
Oui, tout à fait. Mais il est vrai que je suis né à Versailles, ce qui m'arrange, donc en 1976. Il est vrai que souvent, j'ai voulu partir de Versailles parce que j'avais envie de connaître davantage le monde et peut-être d'autres activités. Trois fois, j'ai proposé ma démission qui m'a d'ailleurs été refusée. Et aujourd'hui, je pense qu'il y en a beaucoup qui aimeraient quand même que, enfin, je libère le poste. Sauf que là, jusqu'en 2027, je n'ai pas du tout l'intention de quitter mes fonctions.
Alors, vous disiez qu'un jardin est vivant, bien évidemment. Qu'est-ce que vous pouvez constater ? Comment a-t-il
évolué ?
Alors le jardin, il a évolué positivement et je dirais tristement. Positivement, bah, c'est qu'il continue de s'embellir car il a connu des tempêtes qui l'ont gravement défiguré. Ce jardin a réussi sa transformation sans être traumatisé ou sans être défiguré.
En 99, hein, le parc a été reconstruit.
Oui, il y a la tempête de 1999, il y a également les modes. Quand je suis arrivé, on plantait les sempiternelles bégonias. On y a remis maintenant des plantes un petit peu plus, j'allais dire, fantaisistes. On autorise l'accès à la majorité des peuples. On a donné un côté champêtre au parti qui était champêtre et on arrête de tondre bêtement comme un golf l'intégralité du site. Donc le parc a changé positivement, mais il a également changé tristement avec les conséquences du réchauffement climatique. On le voit à Versailles avec la mort prématurée des conifères ou des hêtres. Donc je suis content de ce parc qui a été capable de s'adapter aux conditions météo et aux modes tout en gardant son âme.
Une équipe de combien de jardiniers pour combien d'hectares ?
Alors les chiffres, si vous aimez les chiffres, je vais pouvoir vous en donner quelques-uns, mais je vais quand même vous en donner. 850 hectares, 350 000 arbres plantés, dont 18 500 sont en alignement, 1 à 2 millions en fonction des années de fleurs plantées chaque année dans les massifs, 43 km d'allée, ce qui veut dire à peu près 86 km de charmilles à tailler tous les ans. Ça vous donne une idée de la taille que nous devons faire. Et tout ça dans un parc entretenu par, on va dire, une centaine de jardiniers titulaires, donc fonctionnaires d'État, une centaine de personnes contractuelles, vacataires ou saisonnières, et une petite dizaine d'entreprises qui viennent mettre en pratique tous les travaux que nous ne pouvons pas faire, soit pour des questions de technicité, par exemple l'abattage d'arbres, ou qui demandent vraiment du matériel que nous n'avons pas.
Comme vous me disiez que vous étiez amateur de photos, est-ce que vous avez photographié les plantes, fait de la macro ou... Parce qu'il y a beaucoup de choses à photographier, même en miniature dans ce parc, par exemple.
J'ai fait, je crois, tous les styles de photos, mais j'ai abandonné, parce que j'ai toujours eu cette prétention de vouloir être le meilleur. Or, il s'avère que dans le domaine de la photo, je ne suis pas le meilleur, loin de là, mais j'ai quand même eu la chance de publier un livre de photographie sur Versailles. J'ai arrêté la photo, mais il est vrai que j'avais la passion de la photo, et le résultat, mon résultat, était, je crois, on va dire satisfaisant, mais peut mieux faire.
Alors vous avez observé que dans les villes, bon, là où il y a des jardins, des parcs, c'est là où les gens vont lorsqu'ils ont besoin de réfléchir, de méditer, de s'isoler un petit peu du monde. Et selon vous, je continue à vous citer, la nature est un état d'esprit.
Oui, bien sûr. Je veux dire que là, nous sommes tous nés de la nature. Nous avons tous mission, je crois, à protéger cet environnement. C'est ça, Antoine de Saint-Exupéry qui disait, je crois, que nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants. Je veux dire pas que c'est important. Nous sommes tenus de préserver cette partie de la planète qui est la nôtre. On n'est pas propriétaire lors d'un jardin. On n'en est que conservateur. Mais il est vrai, et vous le dites très justement, observez les gens qui sont dans un jardin, ils se comportent beaucoup plus calmement qu'en ville. On marche paisiblement, on respire. C'est dans un jardin, généralement, que l'on apprend à marcher. Rien d'étonnant, d'ailleurs, à ce que les écoles pour la petite enfance soient appelées des jardins d'enfants. C'est également dans les jardins que les sportifs aiment de temps en temps aller faire quelques exercices. C'est encore dans le jardin que les personnes âgées viennent réfléchir au seuil de leur départ. Donc, effectivement, le jardin est peut-être le lieu le plus important de la ville, parce que c'est un lieu de retrouvailles, un lieu où l'on peut, comment dire, discuter. Et c'est un lieu également de poésie. Le jardin, c'est le seul domaine, à mes yeux, capable de réunir toutes les activités artistiques, comme la peinture, la littérature, la danse, la musique. C'est dans le jardin qu'autrefois, on se réunissait. C'est encore dans un jardin que le marié, généralement, au bras de la mariée, fièrement, pose devant l'objectif. Donc, le jardin a une très grande importance.
Oui, on l'a vu à quel point, pendant le Covid, à quel point on a souffert d'être coupé de cette nature. Et en règle générale, dans nos sociétés, nous sommes coupés un petit peu de la nature. Vous avez publié « Dictionnaire amoureux illustré des arbres ». Pourquoi doit-on être amoureux d'un arbre ? Je vous pose la question parce que vous en avez parlé. Comment vous l'avez évoqué.
À mon tour de vous en poser une. Comment pouvez-vous ne pas être amoureux d'un arbre ? Quand on sait qu'un arbre est capable de vivre d'une petite graine et que cette petite graine va donner naissance à un être vivant capable de vivre 1000 ans et plus, comment pouvez-vous ne pas tomber sous l'admiration d'un chêne comme celui d'Allouville en Normandie, qui a résisté à la folie des hommes, à la barbarie de la Révolution française, à l'urbanisation? Comment peut-on ne pas être admiratif de l'olivier de Roquebrune-Cap-Martin, qui a plus de 2000 ans? Imaginez si cet arbre avait la parole que tout ce qu'il pourrait raconter. Et puis, que penser de cette souche de pin qui continue d'émettre des rejets et qui vit dans un bosquet du nord de la Suède. Et la souche, elle, qui vit, est âgée de plus de 9000 ans. Donc, moi, je ne peux être qu'admiratif de l'arbre, parce que l'arbre, c'est pas seulement un être végétal fait de sève et de bois, c'est un élément qui est merveilleux, qui est beau, et qui représente pour moi le temps passé, le temps présent et le temps à venir. Voyez-vous, en venant à Fort-Calquier, je regardais, je suis arrivé par le train à Aix-en-Provence, et je regardais par la fenêtre du train la nature. Eh bien, l'arbre est bien plus qu'un élément décoratif, c'est lui qui nous indique où on se retrouve, où on se situe sur la carte de France. Quand vous commencez à apercevoir toutes ces silhouettes de cyprès de Provence, quand en janvier-février, on voit la floraison des amandiers depuis le wagon, on sait où nous sommes. Vous allez du côté de Bordeaux, c'est la forêt des Landes qui vous dit, ça y est, on vient de franchir la Gironde et on continue dans le sud-ouest. Quand vous allez dans les Alpes, ce sont les sapins qui sont là. Donc l'arbre est un indicateur de situation géographique et c'est l'indicateur du temps. Quand vous regardez une photographie, vous savez la saison dans laquelle nous sommes grâce aux arbres qui sont sur la photographie. Donc l'arbre a une importance considérable en matière de biodiversité, pas d'arbres, pas d'oiseaux, pas d'insectes, etc. En matière d'ombrage, en matière de forêt, en matière d'air que nous respirons, en matière de beauté, et c'est le temps passé, le temps présent et le temps à venir.
Quel est votre arbre préféré? Je crois que c'est le chêne. Pourquoi?
C'est le chêne, parce qu'il est magnifique.
Ah, le chêne.
Oui, parce qu'il n'est pas prétentieux, la floraison est discrète, il est là, il est massif, il est capable lui aussi de vivre des centaines, voire des milliers d'années, et puis c'est un arbre qui pour être beau n'a pas du tout besoin de l'homme. Je veux dire, il ne demande aucune taille, il naît d'un petit gland et il se développe d'une manière incroyable. Le chêne, j'ai vraiment une admiration pour le chêne, car même quand on y pense, même mort avec son bois, il continue de vivre. Là aussi, c'est extraordinaire. Savoir qu'il y a des morceaux de bois, et, par exemple, émergés dans l'eau, comme à Venise, qui permettent des milliers d'années de maintenir des cathédrales. Enfin, le bois, l'arbre, c'est merveilleux.
Et on sait à présent, en plus, que les arbres communiquent entre eux. Enfin, on ne connaît pas tous les secrets. Il y a encore beaucoup de secrets à découvrir. Qu'est-ce que vous retenez de cette nature et de cette flore que vous découvrez ici, dans le pays de Fort-Calquier ?
Qu'elle est vraiment typique de la région. Il y a de la douceur. Et ce que je vous dis, c'est vraiment pas une caricature. Déjà, j'ai été surpris en venant jusqu'ici de m'arrêter devant un champ de tulipes. Moi qui ai la chance de beaucoup voyager, je n'imaginais que les champs de tulipes n'étaient présents que du côté des Pays-Bas et en Belgique. Il n'en est rien. Il y en a près de Fort-Calquier. Mais je découvre surtout une atmosphère, une ambiance qui est assez extraordinaire. Je disais à la personne qui m'a reçu que nous sommes dans une région qui ne ressemble à aucune autre région de France. Quand on est en Normandie, quand on est dans le nord de la France, quand on est dans l'est, même quand on est dans le sud-ouest, il y a des points communs, il y a des similitudes. Ici, on est vraiment ailleurs. Il y a une couleur, il y a une ambiance, il y a une atmosphère, il y a une végétation qui est merveilleuse. Je ne vous cacherai pas que de voir la végétation de Fort-Calquier avec au fond la neige sur les montagnes et les tulipes, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire.
Et vous avez pu découvrir qu'ici, il y a des gens qui sont passionnés et passionnants à la cité des saveurs et des senteurs.
Oui, non mais réellement, des gens qui vous parlent avec le cœur, vous savez, il y a deux manières de parler, ceux qui écrivent leurs discours et qui vous font des laïus qui ennuient tout le monde, et puis ceux qui vous parlent avec le cœur. Et j'ai rencontré des gens depuis ce matin qui me parlent avec enthousiasme, avec leur cœur, avec passion, des gens qu'on a envie de avec qui on a envie de parler, avec qui on a envie de faire un bout de chemin, oui, incontestablement.
Écoutez quelqu'un qui a une question à vous poser.
Oui. Bonjour Monsieur Baraton, je profite du fait que mon amie Nathalie vous est en face d'elle pour vous poser quelques questions. Tout d'abord, vous exprimer mon admiration et le plaisir que j'ai à écouter vos chroniques sur France Inter et suivre votre passion et votre travail. Je voulais savoir si vous aviez lu « La voix de l'arbre » de Bernard Werber, tout d'abord. Si oui, quelle est votre opinion? Et sur les traces de Simona Cossack, « Le souffle de la forêt », écrit par Simonetta Greggio. Voilà, les deux livres que j'ai lus dernièrement, qui parlent de la nature, que je trouve assez actuels aussi par rapport aux questions qu'on peut se poser, l'état du monde et de la nature. Merci.
Voilà, ça évoquait aussi le rapport entre l'homme et la nature.
Non, oui, je les ai lus parce que dès qu'il y a généralement le mot arbre dans un ouvrage, je le lis et je constate que les deux livres qui viennent d'être cités sont écrits par des auteurs talentueux qui savent trouver les mots justes et qui emploient un langage d'actualité, non pas un langage passéiste. Et leurs ouvrages, ce n'est pas un livre de nostalgie, c'est en quelque sorte un cri d'amour pour l'arbre, le monde du végétal, avec toutefois de l'inquiétude pour la vie de la planète. Mais effectivement, ce sont des très beaux arbres. Mais si on parle de littérature et d'arbres, il y a quand même un homme qui me fait un peu penser à la région, Jean Giono, quand l'homme qui plantait des arbres. C'est un ouvrage. Alors pour la petite anecdote, ça m'amuse beaucoup, mais quantité de libraires sont persuadés que je n'ai jamais lu ce livre, L'homme qui plantait les arbres.
Pourquoi ?
Je ne sais pas pourquoi. Ils doivent penser que je ne l'ai jamais lu. Mais en réalité, il n'est pas rare qu'on m'en offre un exemplaire quand je le vends en dédicace. Je dois avoir chez moi une cinquantaine d'exemplaires de l'homme qui plantait les arbres. Donc je lance l'appel, si vous voulez, je vends des... voilà. Mais il est vrai que quand on parle de l'arbre, parler de l'arbre, ce n'est pas donné à tout le monde. Celui qui en a pour moi le mieux parlé, eh bien, c'est Victor Hugo, aux arbres citoyens. Il a écrit des choses sur l'arbre absolument merveilleuses. J'ai une petite tendresse pour Victor Hugo, pour ne rien vous cacher. Mais il est vrai que parler de l'arbre, ce n'est pas un sujet facile, parce que l'arbre n'accepte pas la médiocrité. Seuls les très grands peuvent en parler de manière, j'allais dire, littéraire.
Tashka, vous animez l'atelier du parfumeur. Pouvez-vous relater votre parcours ?
En fait, je suis arrivée à cet atelier parce qu'il y avait déjà énormément de personnes qui étaient sur le circuit plantes aromatiques. Donc pour me démarquer un peu, j'ai choisi le côté parfum. J'ai été formée à Salagon et où j'ai mis en place les ateliers pédagogiques grâce à Danielle Musset, qui était la directrice scientifique de Salagon. Donc une fois que j'ai fait plusieurs années de médiation à Salagon, Olivier Bagary, qui était à ce moment-là le directeur ici, m'a proposé de faire des ateliers ici et de prendre son relais sur les ateliers du parfumeur. Donc je me suis un petit peu approprié cet atelier, je l'ai fait à ma sauce, ou à mon nez, dirons-nous, hein, à mon nez. Je laisse les gens faire leur parfum, créer leur parfum. Ils sont les créateurs de leur parfum et leur personnalité et le concept du parfum. Donc ce qui est intéressant, c'est que le parfum, c'est quelque chose de complètement immatériel, qu'on ne peut pas attraper, et pourtant c'est une présence, et même au-delà de ça, ça vous représente. On sent quelqu'un venir avant de le voir. Et quand la personne s'en va, elle laisse son odeur, son parfum.
Quelles plantes trouvons-nous ici, de Méditerranée, dans la région spécifiquement, avec lesquelles on peut faire du parfum? Bon, la lavande, bien entendu.
Il y a la lavande, bien entendu. La lavande fine, la lavande vraie, la lavande officinale. Hein. On ne parle pas du lavandin. Le lavandin est utilisé pour aromatiser les produits industriels comme les lessives, les savons, etc. Par contre, il fut un temps où on cueillait le narcisse et le genêt. Les grosses maisons de grâce venaient récolter le narcisse et le genêt ici, que ce soit le narcisse dans la plaine de Céreste ou le genêt dans les contreforts de la montagne de Lure. Alors ça, c'était des plantes qui étaient utilisées. Mais on se sert toujours du genévrier, on se sert toujours du cèdre, un petit peu du thym, un petit peu de la sarriette. Mais à mon avis, le thym, la sarriette, le basilic, le romarin, l'origan sont davantage des plantes aromatiques que des plantes à parfum. J'anime parce que je trouve que c'est important, que la transmission est quelque chose d'important. Donc j'anime également l'atelier du petit parfumeur pour donner un petit peu le goût aux enfants d'être sensibles à l'odorat. On peut venir à cet atelier du petit parfumeur à partir de l'âge de 7 ans. Sans cela, les enfants sont admis à partir de l'âge de 12 ans, accompagnés pour l'atelier du parfumeur tout court.
Vous avez eu à un moment donné envie de faire, comme vous dites, ensemble. Mais cela à travers la cuisine. Racontez-nous cette cuisine en partage.
Des fois, il y a un côté un peu didactique, c'est-à-dire je suis là devant le public et je fais mon discours. Et j'avais envie qu'il y ait quelque chose de plus convivial. J'avais envie d'être plus mêlée aux gens que de rester avec une certaine barrière. Donc j'ai proposé de faire un atelier par mois qu'on appelle la cuisine en partage, la cuisine inspirée, autour d'un plat. Ça commence le 18 avril, il y aura des asperges, il y aura une jeune salade avec des jeunes pousses, plus des fleurs, plus, je ne vais pas tout vous dire, un super dessert. Au mois de mars, on a des artichauts, bien sûr, on a du quinoa safrané, et puis du sirop de fleurs de sureau avec des fleurs d'acacia en beignet. Et chaque mois, comme ça, on a le légume de saison qui est aromatisé avec la plante qui est là, qui est inspirée.
Vous avez travaillé justement avec les scolaires du lycée Martin Bray de Manosque. Et à ce moment-là, vous vous êtes rendu compte vraiment que la transmission, déjà, un, ça vous plaisait, et puis qu'elle était très importante, et que vous aimez transmettre.
Oui, ben j'ai découvert ça à Salagon, en fait. Comme je disais, je ne savais pas que ça marchait, quoi. Et avec les jeunes de Martin Bray, c'était chouette, parce que c'est un public, les lycées professionnels, c'est des fois un peu lourd. Donc là, c'était cool, parce qu'ils se sont vraiment appropriés les recettes, ils ont relevé les manches, et ça y allait, quoi.
Alors, admiratifs, étonnés.
Ils étaient surpris parce que donc j'ai proposé une soupe à l'ortie puisque c'était l'alimentation pendant l'occupation. Donc ils étaient étonnés qu'on puisse manger des orties. Ils étaient persuadés que ça allait piquer, même la soupe qu'elle allait piquer. Ensuite on a mangé des panais et rutabaga. Et puis on a mangé des espèces de galettes, enfin des galettes qui étaient faites avec de la farine de châtaigne et de la farine de seigle, voilà. Et puis on a goûté de la confiture de cornouille et puis de la confiture de cynorhodon, d'églantier.
Donc je reviens aux ateliers des saveurs. Est-ce qu'on repart avec une petite fiole de notre parfum à la fin de l'atelier?
Pour l'atelier du parfumeur, vous créez votre parfum et vous repartez avec 75 millilitres de votre parfum. Et c'est une eau de toilette, c'est une dilution eau de toilette. Venez nombreux, en fait. Ce qui est chouette, c'est que Marianne Sarraï, qui est la responsable actuellement du lieu, elle a une énergie tellement positive que ça fait du bien et que les choses se passent de façon vraiment fluide. Et ça, c'est vraiment chouette.
Kelly Collonge, je suis cueilleuse dans le collectif de la Place aux Herbes. Donc on est actuellement 5 cueilleurs et cueilleuses, surtout des cueilleuses, à faire partie du collectif en permanent. Donc c'est-à-dire ce sont ceux qui vont animer la boutique, s'échanger les heures de permanence, etc. Et après on a plusieurs cueilleuses et cueilleurs ou producteurs, productrices de plantes aromatiques qui font aussi partie de la boutique en tant qu'invités de plus ou moins longue durée, en fonction de ce qu'ils ont envie d'afficher dans la boutique.
Alors c'est un partenariat avec la Cité Saveurs et Senteurs.
Alors la Cité Saveurs et Senteurs et la boutique sont deux choses différentes, mais on s'inscrit dans la même dynamique autour du couvent des Cordeliers, dans le pôle Senteurs et Saveurs qui a été mis en place dans le lieu, mais on est deux entités différentes. Toutefois, on collabore quand même, puisque moi par exemple, j'anime des ateliers au sein de la Cité, donc il y a quand même des interactions entre nous, mais voilà, on est des entités différentes. Moi, j'ai animé pas mal d'ateliers autour de l'herboristerie, de l'utilisation des plantes aussi sauvages comestibles. Là, il y a 3 journées de formation que je vais animer pour la Cité en mai autour des plantes médicinales et des plantes comestibles sauvages autour de dans la région. Pour ces journées formation et ces différents ateliers, c'est plutôt des ateliers formation pour le grand public. En fait, à l'heure actuelle, c'est un peu compliqué de se former de manière professionnelle à la cueillette, puisque le métier n'existe pas. Donc, en fait, il y a plein de formations qui proposent des choses dans un but professionnalisant. Mais toutefois, comme ce n'est pas un métier reconnu à l'heure actuelle, du coup, c'est un peu compliqué de se former réellement. Après, on est toute une filière. Moi, je fais aussi partie de l'association de la Guilde française des praticiens en herboristerie. Donc, je fais partie des membres du bureau et on fait partie de la filière de l'herboristerie où il y a aussi l'association l'Association française des cueilleurs, le syndicat des simples, la Fédération des paysans arboristes, l'Association des herboristeries de France, la Fédération française des écoles d'herboristes. Tout ça en forme la filière de l'herboristerie et on travaille ensemble pour faire évoluer tout ce qui est législation autour des différents métiers de l'herboristerie. Notamment, là, on est en train de travailler ensemble sur un colloque au Sénat le 17 avril pour faire évoluer un peu tout ça aussi.
Il est important de se fédérer, justement.
Oui, c'est pour ça qu'on a toutes ces associations qui se sont créées et qui travaillent ensemble.
Kelly, vous êtes cueilleuse. Quel a été votre parcours?
Alors moi, j'ai d'abord fait une formation en tant que docteur en biologie des plantes. J'ai travaillé dans la recherche pendant 3 ans. Finalement, je suis tombée malade et j'ai trouvé mes solutions dans l'herboristerie. Et c'est pour ça que j'ai été me former à l'herboristerie et que j'ai fait une école de la Fédération française justement des herboristes. Puis j'ai créé en fait mon entreprise pour accompagner les gens d'abord dans cette errance médicale que moi j'ai vécue pendant que je suis tombée malade. Et puis petit à petit, mon projet, il a évolué et donc pour moi le partage, l'enseignement, la formation c'est vraiment central et c'est des connaissances que je trouve que tout le monde devrait avoir ou en tout cas un minimum que chacun devrait avoir, donc ça me tient vraiment à cœur de partager. Le projet a évolué sur la production, mes premiers amours de laboratoire sont revenus et donc du coup en plus de la cueillette, j'ai cette gamme en phytothérapie que je vends à la boutique, donc je fais de la gémothérapie, ce sont des macération de jeunes pousses et de bourgeons qui vont être macérés dans de la glycérine et de l'alcool. Et je fais aussi des alcoolatures. Là, c'est des macérations de plantes entières ou de parties de plantes qui vont être macérées dans l'alcool. C'est l'équivalent des teintures mères qu'on connaît peut-être mieux en pharmacie. Et voilà, donc du coup, c'est ce que je fais actuellement. Et je suis en train d'agrandir cette gamme avec les champignons médicinaux et comestibles que je vais produire dans ma cave.
Est-ce que la nouvelle génération est sensible ?
Oui, il y a une grosse sensibilité de la nouvelle génération et notamment on le voit chez les médecins et les pharmaciens de la nouvelle génération qui sont de plus en plus ouverts à la phytothérapie, ce qui n'est pas forcément le cas des anciens médecins. Alors, je généralise un peu, même si bien sûr il y a des médecins qui sont ouverts, mais je veux dire de manière un peu plus générale, on a une ouverture qui se fait de plus en plus forte dans les nouvelles générations et ça fait plaisir aussi à voir qu'on peut... Il y a un dialogue qui est en train de s'ouvrir aussi avec les professionnels de santé et ça c'est hyper important parce qu'on peut vraiment travailler en complémentarité, je pense qu'on a vraiment tous à s'apporter.
Est-ce que vous pouvez rappeler aux auditeurs de Fréquence Mistral les heures d'ouverture de la boutique?
Oui, alors la boutique La Place aux Herbes est ouverte le lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 9h30 à 13h et de 14h30 à 18h et quand je suis de permanence à la boutique, je fais aussi du conseil au comptoir si besoin.